Interview.
2 jours. Bonjour, ici R. Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Vasco Bossio. Bonjour.
Bonjour.
Vasco, vous êtes maraîcher et transformateur de votre production et vous êtes aussi membre du syndicat Confédération Paysanne Drôme. Et vous êtes ici pour nous annoncer une date, celle du 31 octobre, où à l'usine vivante, à partir de 18h30, vous présenterez Bertie d'Aragon, qui est invité par vous, donc, pour présenter son livre qui s'intitule « Jardiner dans les ruines ». Alors, peut-être, avant de commencer, vous pouvez vous présenter.
Je suis donc très récemment installé comme paysan avec mon épouse. Donc, nous sommes deux au sein de la ferme G. Dupont, dans le petit village de Manas. Et donc, nous produisons des légumes et nous les transformons au sein de la ferme qui s'appelle G. Dupont. Voilà. Alors, en tant que jardinier, ou plutôt paysan, nous sommes confrontés à énormément de, enfin, disons, aléas, les aléas climatiques, mais les aléas aussi de la terre que nous cultivons, celle que nous héritons des générations précédentes. Dans mon cas, c'est je suis en hors cadre familial, donc je n'ai rien hérité du tout. Et donc, cette terre, il faut savoir en prendre soin parce qu'elle peut être polluée, elle peut souffrir de différentes pollutions. Et le livre que Bertie a fait est donc un essai, Jardiner dans les ruines, quel potager dans un monde toxique. Elle va venir nous faire prendre conscience de ce que la terre peut transmettre comme problème de polluant. C'est-à-dire, je fais un petit potager au bord d'un jardin d'une voie ferrée, j'ai l'impression que tout va bien, mais non, il peut y avoir des polluants cachés. Et donc, Bertie va faire déjà de forme parallèle, elle va mettre en avant les polluants existants, les plantes, si elles vont pouvoir vous aider à déterminer quel est le polluant. Lorsque la plante est un marqueur pour tel ou tel polluant, elle va pouvoir vous expliquer, vous dire si ce que vous consommez a un polluant. Elle va pouvoir aussi vous donner des conseils sur telle ou telle plante va aider à dépolluer le terrain. Donc son propos est de prendre conscience dans quel monde nous vivons et surtout de continuer à jardiner, même si les conditions des fois sont difficiles.
Qu'est-ce qui vous a amené vous-même donc, à être maraîcher?
Alors là, c'est un projet de couple et de vie. C'est-à-dire que ça s'entend peut-être à la radio, mais je ne suis pas de première génération, une cinquantaine de balais. Et donc, il y a un changement, une prise de conscience sur effectivement le monde qui nous entoure souffre aussi et nous souffrons avec lui. Et donc là, il s'agit de mettre les mains à la pâte, les mains à la terre. Donc produire, s'alimenter bien, faire ce que nous aimons. C'est un changement de profession. Effectivement, le Covid, comme beaucoup de personnes, a amené... C'est un révélateur de « allez, on y va ». C'est maintenant ou trop tard, parce que 50 ans, c'est quand même... Il faut y aller. C'est pas trop vieux, mais il faut y aller. Et effectivement, une prise de conscience, il vaut mieux des fois faire des petites choses bien que le contraire. Auparavant, je travaillais plutôt dans l'agroalimentaire et pas de souci, je ne rechange pas de métier. J'aime bien ma brouette, j'aime bien ce que nous faisons.
Alors vous vous êtes installé donc sur le lieu G. Dupont.
Alors c'est un ancien clapier donc, où on élève des lapins. Que nous avons retapé. Donc effectivement, il y a toute notre démarche. Il s'agit de remettre une friche agricole, la remettre en activité pour qu'il y ait une activité paysanne qui reste. Il s'agit aussi de changer les méthodes de production au niveau de la terre. Donc maintenant, on est sur un maraîchage diversifié avec très peu d'outils mécaniques, avec aucun intrant, c'est-à-dire, pour être clair, aucun pesticide. Donc le bio, par exemple, c'est un cahier de charges qui va permettre d'utiliser ne serait-ce que la bouillie bordelaise, par exemple. Mais c'est un produit, et donc nous on n'utilise pas de produit, quoi. Voilà, on récupère de l'eau, on fait des transformations de tous nos légumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est petit, il est gros, il est moche, il est surtout consommable, et on le transforme, et donc voilà, il y a zéro déchet, zéro gaspillage. On essaie d'être le plus vertueux possible dans toutes nos démarches, mais il y a aussi une réalité que Bertille nous rappelle, c'est celle aussi de ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Ardèche. Je recevais des SMS d'alerte, puisqu'on n'est pas loin, et comme quoi tout était inondé, c'était un peu la catastrophe. Donc c'est un peu ce qui est en train de nous arriver. Moi, je ne suis pas du tout catastrophé, dans la mesure où tous les jours je me lève et avec Eva, nous efforçons, nous œuvrons pour avoir, disons, une vie agréable, et autour de nous, que ce soit la même chose. Mais effectivement, il y a des changements, qui nous tombe dessus. Il y a surtout un état de la terre qui est, disons, on peut discuter si on est pour, contre, mais en tout cas, il est devant nous. Il y a des choses, il y a une biodiversité qui souffre. Il y a beaucoup de choses à faire. Je trouve que, pour revenir à la première question, je pars dans tous les sens, mais pour revenir à la première question, un changement d'activité, s'installer dans l'agricole, parce qu'on touche tout, on touche la biodiversité, on touche le commerce international lorsqu'on veut que les produits ne rentrent pas en import, on touche des minimums revenus. Le syndicat, la Confédération paysanne, auquel je participe, répond à toutes ces questions, pour moi, de la bonne manière.
Alors, cela fait combien de temps que vous êtes installé sur ce terrain ?
C'est 3 ans, 2022.
Et ce terrain, quand vous l'avez acquis, il était propice tout de suite à ce type d'agriculture, ou alors il a fallu une transition ?
Pendant 7 ans, nous l'avons, donc c'est un projet qui a été mûrement réfléchi, on va dire. Pendant 7 ans, nous l'avons laissé en friche pour que la biodiversité revienne, pour qu'une haie naturelle se crée, un corridor, on appelle ça nous un corridor de biodiversité. Nous avons planté des arbres grâce à une association, avec l'aide d'une association qui s'appelle l'ADAF, l'Association Dromoise de Agroforesterie. Nous avons aussi été aidés par une autre association qui s'appelle l'Hirondelle aux Champs, et donc là spécifiquement pour permettre que notre agriculture paysanne puisse accueillir la biodiversité. Concrètement, nous avons posé des nichoirs, nous avons posé des perchoirs, des perriers pour que des animaux puissent se reproduire et circuler. Lorsqu'on utilise aucun produit de synthèse, mais que ce soit un pesticide, un herbicide, un fongicide, enfin, souvent quand ça se finit en cide, c'est pas terrible. Quand on utilise des produits où on mécanise, en fait, effectivement, on a des probabilités d'avoir des rendements, peu importe la culture qu'on est en train de faire, des rendements qui soient supérieurs. Mais c'est bien en contrepartie, et évidemment, de pollution. Lorsqu'on utilise le tracteur, il y a de l'essence. C'est aussi de la pollution, de la déstructuration du sol, parce que l'effet mécanique c'est un coup de couteau dans le sol, c'est pas anodin, c'est un coup de couteau. Lorsque on protège son terrain pour que les sangliers ne passent pas, etc., et ben voilà, ça fait moins de pertes de culture. Mais bon, nous, on a pris le pari que accueillir la biodiversité va nous permettre de ne pas utiliser des produits phyto, des pesticides, et tout ça va se réguler et on va quand même avoir une récolte. Bon, pour l'instant, c'est plutôt pari gagnant. Les difficultés sont plutôt dans nos manques de connaissances, parce que c'est un métier, hein, donc on fait pousser une courgette, mais un champ de courgettes, c'est plus compliqué. Donc, c'est plutôt positif. Pour l'instant, on est plutôt dans le positif.
Vous avez donc découvert cet ouvrage et qui vous a tout de suite donné des réponses à vos questions, à vos questionnements sur votre pratique de maraîchage.
C'est un essai. Conclusion, il y a beaucoup d'informations scientifiques aussi.
Vous avez découvert ce livre par connaissance aussi. Vous connaissiez Bertie, j'imagine, peut-être avant.
Oui, je l'ai connu auparavant, mais on parle d'il y a 20 ans, 30, lorsqu'on était étudiant. Effectivement, je ne savais pas qu'on allait se retrouver dans le même domaine, puisque Bertie, elle est maraîchère. Elle n'est pas que dans la littérature. Et dans les idées, elle met la main à la pâte et elle fait pousser des légumes. Elle participe à des jardins partagés. Donc et en plus, elle a une conscience sur. Disons, moi, je deviens agriculteur parce que je me dis, là, je peux faire quelque chose. Au-delà de gagner de l'argent pour payer mon loyer. Hein. Elle fait la même chose, mais elle est allée au-delà, puisqu'elle a écrit un essai. Voilà.
À la lecture de ce livre, ça vous a révélé aussi, la pollution qu'il y a sur votre terrain en fonction de ces plantes référenceurs.
Alors, effectivement, par exemple, il y a une partie rigolote sur la feuille de tabac. Donc, la feuille de tabac, au lieu de la fumer, on peut l'utiliser pour... donc, comme révélatrice, elle va révéler des problèmes qu'il peut y avoir, des pollutions. Donc, effectivement, je me suis dit que j'allais planter du tabac. Tout à l'heure, par rapport à mon fameux plastique, moi, j'ai changé de métier et je suis arrivé avec énormément de convictions. J'étais certain que j'allais réinventer l'eau chaude. Et en fait, non. Pour faire pousser des courgettes, il y a des techniques, il y en a des meilleures que d'autres, ou selon ses affinités, etc. Mais effectivement, si j'utilise une bâche plastique, cette bâche plastique, il faut qu'elle peut finir micro-particules. Donc, est-ce que je l'utilise ou pas? Ou comment je l'utilise? Est-ce qu'il est possible de faire sans?
Cette activité de maraîchage vous permet de produire quantité de légumes, de végétaux, et de là aussi à les transformer pour pouvoir ensuite les distribuer dans la durée.
Tout à fait. Alors, notre démarche vertueuse, entre guillemets, mais bon, c'est bien ce qu'on essaye de faire. On va après les distribuer auprès de magasins de producteurs, de magasins paysans, d'abord.
Mais comment s'opère justement cette transformation? Vous avez dû vous construire un laboratoire.
Ah, mais complètement.
Est-ce qu'il y a un soutien justement?
Le labo, l'atelier de transformation, donc il est auto-construit au sein de ce fameux clapier. Donc il s'agit bien de remettre en activité un ancien bâtiment, ne pas construire sur des nouvelles terres, ne pas bétoniser pour rien. Donc on a retapé une partie du hangar pour faire le labo. Bon, c'est un autoclave, hein, le cœur du on fait des conserves. Il est évident que c'est toujours mieux d'avoir une tomate fraîche devant soi. Alors après, bon, voilà, la pulpe de tomate en hiver, elle apporte aussi son petit bonheur. Mais voilà, manger frais, c'est toujours plus intéressant pour la santé. On fait aussi désormais de la transfo en lactofermentation. C'est un autre type de transformation pour conserver les aliments, un autre moyen. Et donc, nous, on transforme cela, enfin, Eva et moi, voilà, je sais pas, on fait des houmous avec notre pois chiche, des tartinables.
Voilà, vous proposez donc des préparations culinaires,
oui,
des
préparations
sorte,
culinaires,
aussi.
Oui. Et nous préparons donc pour l'apéritif, des sauces, des tartinables. Et nous travaillons aussi pour les autres. Nous faisons à ce jour, par rapport à la viabilité économique de notre projet, il est évident que le travail à façon, c'est-à-dire réaliser des prestations de service pour les autres, c'est ce qui nous permet de maintenir la tête au-dessus de l'eau, pas sous, au-dessus. Et voilà, et donc ça, c'était une prestation de service peu présente dans le territoire drômois. Dans la mesure où mes collègues paysans, lorsqu'ils ont des labos transfo, ça va être plutôt pour donc presser des pommes, presser du raisin, des choses comme ça. Donc il en existe aussi, bien sûr, hein, d'autres labos, mais peut-être viande. Alors nous, on est que dans le végétal, donc effectivement, il y a déjà une cinquantaine de petites fermes aux alentours. La plupart à taille humaine et bio qui ont fait appel à nous pour de la transfo. Ouais.
Autour de vous, il y a la Confédération Paysanne. Vous avez d'autres personnes qui sont parties aussi dans la même démarche au niveau de cette exploitation de produits maraîchers, de transformation. Est-ce que pour vous, c'est aussi important de pouvoir développer cette activité?
Alors, il y a beaucoup de personnes en France qui souhaitent s'installer dans l'agricole. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que aujourd'hui, le terrain, on s'en rend bien compte lorsqu'on paye un loyer hein, pour une maison. Donc, pour un terrain, c'est pareil. L'accès au terrain est difficile. Donc, nous, on a eu accès à 2 hectares, ce qui est très peu, mais suffisant pour une activité de maraîchage. Même très... Alors, beaucoup de personnes souhaitent s'installer et notre syndicat, comme j'ai envie de dire peut-être toute la profession agricole en France, souhaite qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'installent. Parce que il y a la pyramide des âges qui joue au niveau de toute la profession et dans l'espace de dans les 5 années qui viennent, ça va commencer à être visible que des personnes partent à la retraite et il faut bien que l'activité continue. Même si certaines activités agro-industrielles, si elles s'arrêtent, en ce qui me concerne, c'est pas grave. Mais enfin bon. Et donc, oui, il faut avoir une démarche pour que les gens s'installent.
Et pour ça, il y a Terre de Liens.
Hein, pour ça, il y a Terre de Liens, bien sûr.
C'est cette activité qui permet la reprise de départ à la retraite.
Tout à fait. Il y a un nombre d'organismes, donc la Confédération Paysanne en fait partie, souvent reliés au sein d'un groupe qui s'appelle Impact. Et d'autres, hein, je veux dire même les officiels et les classiques, hein, je veux dire la Chambre d'agriculture avec. Donc oui, il existe un réseau d'organismes qui vont venir aider soit les paysans qui partent à la retraite, soit ceux qui veulent s'installer, soit faire le lien entre les deux, que ce soit au niveau financier de la terre ou du projet en soi. Et effectivement, j'invite vos auditeurs et vos auditrices à jardiner et à s'installer, s'ils le souhaitent, en agricole.
Je reviens aussi pour ce rendez-vous qui aura lieu donc le jeudi 31 octobre. Ça sera à l'usine Vivante, à Cray. Il est proposé donc une présentation de ce livre par Bertille.
Oui.
Et le lendemain, il y aura aussi une mise en pratique de ce qu'elle propose. Ça sera le vendredi à partir de 9h30 à Manas.
Oui.
Donc, C'est où, ça, précisément, Manas?
Alors, Manas, ça va être... ça fait partie de l'agglomération de Montélimar, mais c'est à cheval, effectivement. Regarde Dieulfi d'un côté et Cré de l'autre. Concrètement, c'est entre Puy-Saint-Martin et Pont-de-Barré. Donc, c'est des villages un peu plus connus. Donc, c'est là où nous nous sommes installés. Et voilà. Et il s'agit aussi, à ce moment-là, de se confronter à la réalité. J'arrive avec mes idées, je ne veux pas de mécanisation, je ne veux pas de produits phytosanitaires, le plastique, j'en veux pas. Et pourtant, c'est bien. Est-ce que c'est le système? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de mettre de l'eau dans son vin et, pour pouvoir aller de l'avant, pour produire, pour pouvoir transformer, pour pouvoir vendre? Mais se confronter aussi à d'autres personnes qui ont fait d'autres choix. Bertie, elle a fait d'autres choix. C'est aussi une maraîchère. Et peut-être que la discussion nous amènera à nous remettre en question et voir comment et où on peut s'améliorer. Et aussi, peut-être aussi, de mettre le doigt, sur des points qui sont pas bons.
Vous proposez cette visite de ferme pour les personnes qui seraient intéressées?
Ah, mais tout à fait, oui. C'est un jour férié.
Vendredi 1er.
C'est un jour férié, effectivement. Si vous avez le temps de venir nous rendre visite, d'échanger avec Bertille et d'autres maraîchers, vous êtes les bienvenus.
L'eau, ça c'est une problématique. Est-ce que vous avez certaines difficultés avec l'eau?
Alors, bien sûr que nous avons des difficultés. Elles sont évidentes lorsque, en période estivale, il fait 40 degrés. Il y a évaporation, les plantes elles transpirent hein, comme nous. Donc elles ont besoin d'un apport d'eau, donc il faut effectivement tout simplement arroser. Alors cette eau, en ce qui nous concerne, nous avons fait donc des puits. On l'économise quand même, même si on a un accès à l'eau. On n'a pas l'accès de l'eau du Rhône, hein, des canalisations qui existent déjà pour d'autres. Donc on y prête attention. Mais nous y prêtons aussi attention, donc l'hangar que nous avons retapé n'est pas attenant aux 2 hectares. Une petite partie autour du hangar que nous cultivons. Et donc, du coup, nous récupérons l'eau de la transformation. Un autoclave consomme de l'énergie et consomme de l'eau. Peut-être même plus... c'est peut-être même plus d'eau que d'énergie. Enfin bon... donc nous récupérons cette eau pour pouvoir arroser les légumes et il est prévu, étant donné que le bâtiment est assez grand, que nous puissions récupérer l'eau de pluie, la stocker dans une citerne souple pour pouvoir après la réutiliser. Donc effectivement, l'eau est un problème et sera un problème de plus en plus important, ou l'est de plus en plus important. C'est-à-dire que là, on sait que cet hiver, on doit faire ces travaux-là, espérons qu'on y arrive pour pouvoir se confronter à ce qui arrive.
Je pensais aussi à cette association qui s'appelle les Fermes Paysannes Sauvages. Je ne sais pas si vous les connaissez.
Mais complètement.
Qui ont réhabilité des terrains conventionnels, d'agriculture conventionnelle.
Tout à fait. On est effectivement... eux, ils sont dans la mise en pratique de ce que Bertie d'Aragon pointe du doigt dans son essai. Effectivement, il y a une mise en pratique. Mais que d'une certaine manière... ce que nous avons réalisé avec l'Hirondelle au champ, répond à certains points aux mêmes problématiques. Voilà. Mais effectivement, c'est super, la ferme sauvage et paysanne. Oui, tout à fait.
Pour participer à ce rendez-vous, il y a des inscriptions possibles?
Alors, pour aller à l'usine... sur Cré, bah, y a pas de souci, hein. Vous ne garez pas loin et puis vous êtes le bienvenu. Et sinon, effectivement, pour vous accueillir dans des bonnes conditions, l'idéal pour le lendemain, pour le premier, pour la visite de la ferme et une discussion plus comment en direct avec, avec Bertie, etc. C'est mieux de prévenir. Vous pouvez me joindre au 06 45 09 70 03 pour un petit SMS ou voilà, pour prévenir combien de personnes vont passer, à quel moment, et pouvoir organiser au mieux.
Ça commence à 9h30, hein, ce vendredi 1er.
Ça commence à 9h, 9h30 pour le café, et on essaiera de ne pas être trop long pour arriver à l'apéro à la bonne heure.
Voilà. Vasco Bossio, merci beaucoup d'être venu sur Air du Bois pour nous parler de ce rendez-vous donc avec Bertie d'Aragon ce jeudi 31 octobre à l'Usine Vivante pour présenter son livre « Jardiner dans les ruines ». Et puis de votre aussi présence pour nous parler de cette visite de ferme que vous proposez le lendemain à partir de 9h30 à Manas.
Merci, merci, merci beaucoup de m'avoir invité. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs, donc paysannes et paysans, qu'il y a des élections qui nous concernent, des élections professionnelles en début de 2025. Donc j'invite tout le monde à voter lors de ces élections.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Merci. À très bientôt. Au revoir.
Vous écoutez l'interview du jour sur Air Diwa.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Bertie d'Aragon, vous exercez au sein d'une communauté agricole. Pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger? Et est-ce que vous avez constaté dans votre activité justement ces problématiques que vous mettez en avant dans cet ouvrage?
Alors moi, je suis aide maraîchère, c'est-à-dire que je n'ai pas mes propres terres et j'ai plutôt, je circule entre plusieurs jardins. Et puis j'ai eu mon jardin potager, mais voilà, j'ai pas une expérience de maraîchage. L'objectif du livre, enfin en tout cas ce qui m'a motivée, c'est pas tant parti d'un constat au début concret, pratique. C'est plutôt parti d'une inquiétude, c'est-à-dire que j'ai pas constaté dans un jardin des choses qui m'auraient fait penser que peut-être il y avait des polluants, mais c'était de me dire tiens, il y a des polluants. Est-ce que par hasard ça aurait pas un impact sur les jardins? Et après coup, en ayant plus d'infos, effectivement, j'ai commencé un peu à m'inquiéter que quand notamment sur une parcelle, on a eu des problèmes avec des courges, une parcelle où rien ne poussait en fait. Et un moment où notamment on a fait des buttes, on a fait tout un travail du sol pour pouvoir améliorer la structure du sol. Et en fait, voilà, rien n'y faisait. Les courges qu'on avait mises ont complètement périclité. Et là, par contre, voilà, c'est du coup une hypothèse que j'ai faite. Alors, sans avoir fait ce travail, j'aurais pas du tout pensé à l'option métaux lourds sur cette parcelle. Bon, il s'avère que finalement les taux étaient pas trop inquiétants et que c'était plutôt que c'est une terre qui vient en fait de gravats, et donc c'est une terre qui est pas bien structurée. Il y a pas beaucoup de sol, quoi, tout simplement en fait. Mais voilà, disons que ça venait pas d'une c'est plutôt le travailler qui m'a permis d'avoir ce regard là, cette attention là sur la question des polluants au jardin.
De ce constat donc d'une terre pauvre en quelque sorte, polluée aussi, qu'est-ce qui a été pour vous un remède?
Là, en l'occurrence, sur ce sol-là, c'était vraiment créer du sol. Donc, ça veut dire mettre des engrais verts, et c'est sur le long terme, du coup, que ça se joue. Et apporter de la matière organique, mettre des légumineuses pour fixer l'azote et favoriser une création plus rapide de sol. Une terre comme ça, où il y a vraiment très très peu d'épaisseur de terre, c'est sur plusieurs années, hein, que ça se rétablit. Et il se trouve qu'en fait, le fait de favoriser à la fois la vie du sol, la vie des microbes, et d'apporter de la matière organique, de tout ce qui favorise en fait la structuration du sol, c'est également on se trompera rarement en faisant ça. C'est-à-dire que par rapport à plein de pollutions, ça va plutôt aider à ce que les pollutions polluants présents ne migrent pas, migrent moins dans les plantes. Donc voilà, favoriser la structuration d'une terre avec un complexe argilo-humique, on dit, donc c'est-à-dire le lien, enfin des voilà des espèces de particules qui se lient entre l'argile et l'humus, là qui est le produit de la dégradation de la matière organique. Voilà, ça le complexe argilo-humique, il a un pouvoir de rétention, enfin comment dire, il agrège, il retient pas mal de polluants. Donc c'est disons que ce qu'on fait un petit peu sans doute parfois spontanément pour dans des jardins où on a un petit peu une optique un peu comme dans l'agriculture bio, quoi, souvent en jardinage on s'inspire pas mal de ça, et ben en fait c'est une bonne pratique aussi face aux polluants.
Alors comment cultiver sur des sols pollués, comment s'est constitué cet ouvrage, avec l'aide de qui aussi? Et puis, comme vous l'indiquez dans une présentation, il y a beaucoup de renseignements d'ordre scientifique également.
Oui, c'est vrai, ça a été vraiment mon point de départ, c'est-à-dire que j'ai été chercher des études, des résultats d'études sur un peu toutes les thématiques que j'aborde pour avoir un regard le plus sourcé possible et éviter en fait de ressasser un peu des recettes dont on ne sait pas trop ce qu'elles valent, comme dans pas mal d'ouvrages malheureusement de jardinage. Voilà, là j'avais vraiment envie de voir ce que disaient des scientifiques qui avaient pu se saisir de ces questions-là. C'est pour ça que voilà que le livre, effectivement, il y a les articles consultables à la fin, enfin pas les articles mais on peut les références. Ce qui fait que voilà, n'importe qui peut aller voir ces articles et éventuellement confronté avec ses propres connaissances, etc. Et le travail, mon travail a aussi été relu par des scientifiques des différents domaines pour voir ce qu'ils en pensaient, est-ce que ça correspondait avec leurs connaissances, voilà, pour être sûr de pas divulguer des choses qui seraient inexactes.
Il y a aussi diverses manières de cultiver la terre. Vous mettez aussi un point sur le jardin de complaisance, de loisir, et puis le jardin potager. Pour vous, il n'y a pas de différence pour ce qui est de la terre à traiter?
Je parle vraiment jamais du jardin de loisirs. J'en parle seulement comme étant une façon de faire si on est face à un sol où il y a vraiment des polluants qui seraient dangereux, qui se transféreraient facilement dans les plantes et où du coup il faudrait absolument arrêter de s'en servir comme alimentation. Donc dans ces cas-là, effectivement, ben une des façons de faire face à un sol comme ça, ben c'est d'abandonner une culture vivrière et effectivement du coup de cultiver plutôt pour la biodiversité. mais voilà, c'est un peu ça reste un pis-aller s'il n'y a pas d'autres solutions. Sinon voilà, tout le livre il parle uniquement du jardin potager et du jardin maraîcher. C'est vraiment les deux axes, sachant qu'il y a des choses qui sont faisables en jardin potager et qui ne le sont pas en maraîchage, parce qu'on est sur des optiques de voilà d'en tirer quand même un salaire, en plus d'en tirer de l'alimentation, ou au moins d'avoir une production un peu stable, fiable, qu'on n'a pas forcément dans un jardin. On n'a pas la même pression sur un jardin potager. On peut se permettre de faire plus d'expérimentation par rapport à la surface. On peut se permettre de mettre beaucoup plus de travail humain, alors que voilà, quand une personne seule gère un hectare ou deux, ben évidemment elle ne peut pas avoir les mêmes approches. Mais il y a des choses quand même qui peuvent être transférables d'un univers à l'autre, ou en tout cas j'ai l'impression que pour voir des amis maraîchères qui ont lu l'ouvrage, ça ouvre au moins des questionnements, voilà, sans qu'il y ait forcément des réponses évidentes, mais au moins peut-être de dire bon, est-ce qu'il y aurait des alternatives au tout plastique? Est-ce qu'on peut faire d'une autre manière? Enfin voilà, ça, ça ouvre à ces discussions et possiblement à des recherches politiques, parce qu'en fait à un moment c'est pas les maraîchers maraîchères qui vont réussir à financer des toiles en jute ou en chanvre pour éviter de les utiliser les bâches plastiques par exemple. Là c'est tellement cher, la différence est telle en fait de prix qu'il faudrait une volonté publique et l'argent qui va avec en fait pour favoriser l'usage de produits beaucoup moins impactants au niveau des pollutions.
Et vous parlez aussi de ces présences de plantes justement qui mettent en évidence certaines pollutions. Ça, c'est un chapitre sur lequel vous consacrez. Et aussi, en contrepartie, vous proposez aussi des plantes qui peuvent combattre certaines pollutions.
Alors, en ce qui concerne des plantes qui vraiment indiqueraient telle ou telle pollution, elles sont très rares. Si on est sur un terrain, où avant il y a eu des mines, et où du coup il y a des taux de métaux lourds extrêmes, ben, j'espère que personne ne cultive sur ces terres-là. Là, effectivement, on a des plantes très spécifiques qui sont les plantes calaminaires et qui sont des plantes qui supportent des taux de métaux extrêmement forts et qui sont du coup un peu les seuls à pousser sur ces endroits-là. Donc, et là, c'est même des plantes qui sont très rares, protégées, et voilà, donc ça fait des biotopes très intéressants, mais par contre, pas des endroits de jardinage.
Justement, ces types de plantes qui sont résistantes à ces pollutions, est-ce qu'elles ont, malgré leur rareté, elles ont une protection, comme vous le disiez, elles sont protégées, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'action ou de produire ces plantes justement pour généraliser certains traitements de terrain par exemple.
Alors là, je pense que on va plus vers l'idée de peut-être de l'extraction. Quand vous parlez de traitement de terrain, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle la phytoremédiation, c'est-à-dire le fait d'essayer d'améliorer un sol par l'action du végétal. Et là, effectivement, il y a des façons, il y a des choix de plantes en fait qui permettent d'extraire dans les parties aériennes les polluants et ensuite d'enlever en fait ces parties et de les concentrer à un endroit où on va estimer que c'est un endroit qui est pollué et qu'il restera et où on concentre en fait la pollution, mais du coup d'extraire en fait d'une grande partie d'un sol qu'on destine soit à la culture, soit par exemple à des jardins publics ou voilà. Donc c'est effectivement les plantes ça dépend des polluants. Il y a certains polluants qui peuvent dont le taux va pouvoir diminuer ainsi dans les sols. D'autres où en fait ça marche pas bien. Et de toute façon, c'est toujours long. C'est-à-dire que, par exemple, sur le cadmium, qui est donc un des métaux lourds, on a des expériences où c'est plutôt de l'ordre de 50 ans pour que la pollution au cadmium diminue de moitié. Donc, vous voyez, c'est vraiment c'est long. En fait, c'est des processus qui sont longs pour vraiment que, petit à petit, que le cadmium soit capté par les mycorhizes et les racines et que la plante que le cadmium se concentre dans la plante, qu'on enlève la plante et puis on recommence année après année. Donc c'est des processus vraiment très longs, mais qui, sur un sol faiblement pollué, peuvent aussi être utilisés pendant quelques années si les taux de pollution ne sont pas trop trop élevés et s'il s'agit de polluants des polluants qui vont être moins impactants pour la santé, par exemple. Et puis il y a aussi des plantes en fait qui comme les saules par exemple, les peupliers dans la rhizosphère, c'est-à-dire la partie de la terre où il y a plein de racines, plein de radicelles, tout le système en fait racinaire de la plante, c'est un endroit où il y a énormément de vie en fait de microbes et puis de petits animaux, etc. Donc c'est une partie très 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 vivante, très riche en biodiversité, et via les échanges entre l'arbre et et tous ces organismes et micro-organismes, eh bien il peut y avoir une prolifération de bactéries qui vont réussir à dégrader certains polluants organiques, c'est-à-dire des polluants non pas des métaux lourds qui sont en fait des éléments, mais des molécules qui peuvent être du coup scindées en petits morceaux par les bactéries.
Et le lendemain, donc le vendredi 1er, il y aura cette visite de ce jardin à Manas, hein, à partir de 9h, vous serez présente. Quelle sera votre activité à ce moment-là?
Alors mon idée de départ c'était de jardiner ensemble et du coup dans une atmosphère plus informelle en fait de pouvoir poursuivre les échanges et éventuellement pouvoir aller un petit peu plus loin sur ce que ça provoque comme idée, comme inquiétude et comment quels sont les choix culturaux en fait des personnes qui viendront. Je ne sais pas s'il y aura sans doute des maraîchers, des maraîchères et peut-être des personnes aussi qui ont d'autres formes de culture et voilà de pouvoir discuter de leurs itinéraires techniques comme on dit, de tous leurs choix culturaux et voir qu'est-ce qui bloque à des endroits, par exemple des personnes qui souhaitent réduire le plastique, quelles difficultés ces personnes rencontrent, ou des personnes qui souhaitent diminuer tel ou tel intrant, par exemple le cuivre pour la vigne. Un peu plus écouter dans la discussion en fait autour de la réalité en fait des maraîchers, maraîchères et des paysans, paysannes pour discuter entre l'idéal et la réalité de leur pratique, l'écart que ces personnes peuvent ressentir et comment elles y répondent et est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à des choses. C'était plutôt cette optique-là d'un dialogue.
Pour vous, est-ce que, je ne sais pas depuis combien d'années vous pratiquez, est-ce que vous avez vu cette évolution sur ces terres dans lesquelles vous travaillez?
Alors la terre sur laquelle que j'ai fréquenté le plus longtemps, disons, c'était un grand jardin de jardinage, pardon, dans un lieu collectif. Oui, j'ai pu voir des changements, pas forcément pour le coup en termes de, enfin pas lié à la pollution réellement, mais plutôt aux conséquences de la déforestation. En fait, c'est une terre où la forêt regagne un petit peu, mais très 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 jeune, une forêt très très jeune, et où il y a des chevaux qui pâturent ou qui ont pâturé, et voilà, avec un sol du coup très tassé, peu de diversité dans les endroits ouverts ou même sous les pins et voilà, il y a des endroits où on a fait des baissères, c'est-à-dire fait des terrasses et avec des terrasses un peu penchées vers l'amont, l'idée que ces terrasses puissent retenir l'eau et qu'elles s'infiltrent doucement pour éviter l'érosion, pour favoriser en fait une bonne retenue de l'eau et oui, on a vu au fur et à mesure le plus de biodiversité s'installer, par exemple c'est une zone de prairies et de vergers. Et petit à petit, on voyait des choses changer. Mais voilà, là, c'était pas en fonction d'une. Pour le coup, c'est une zone assez éloignée des pollutions, donc c'était pas la problématique pour moi dans ce jardin, mais plus cette histoire de sol tassé et d'érosion parce que une pente forte et un sol nu, quoi. Enfin, nu, comment pas nu, mais une prairie et que du coup, un sol de prairie, c'est pas très adapté à cette altitude-là et à la montagne, en fait. Hein. C'est vraiment il n'y a que les forêts qui savent freiner l'eau en montagne.
Est-ce que cette pratique, cette expérimentation vous a permis de redécouvrir d'anciennes techniques?
Alors d'anciennes techniques, je sais pas vraiment parce que aujourd'hui on utilise des outils comme la grelinette qui est récent en fait, c'est un outil très récent et qui permet de travailler le sol de façon très douce avec une aération mais sans aller sans déstructuration du sol. Donc en fait j'ai l'impression que pour retrouver vraiment des anciennes techniques, déjà faudrait revenir avant les 30 Glorieuses. Parce qu'en réalité, depuis les années 50, même les gens, et surtout les gens qui faisaient du jardinage, ont utilisé beaucoup de produits polluants, de pesticides et d'engrais chimiques. Malheureusement, voilà, les personnes qui aujourd'hui sont âgées et qui cultivent leur petit bout de jardin, elles ont à la fois beaucoup de connaissances, et toute une expérience très très précieuse. Et en même temps, elles ont connu un moment où on traitait avec les pesticides, les glyphosates, y compris en tant que jardinier, jardinière, quoi, pas seulement en agriculture. Donc voilà, je suis pas sûre qu'on retourne à un endroit. Enfin, j'ai l'impression qu'on cherche si on retourne à un endroit, c'est assez loin, quoi. Donc c'est d'aller sauter des générations et de revenir avant-guerre, ce qui est pas évident parce qu'on n'est plus dans les mêmes formes de vie. Donc avant-guerre, il y avait plein d'usages de la traction animale. Bon, bah, aujourd'hui, ça reste un peu exotique. La traction animale, c'est difficile d'accéder à des chevaux qui ont été élevés pour ça. C'est difficile d'avoir les outils, et c'est très très difficile de rentabiliser une activité où on ferait intervenir de la traction animale. Donc voilà, ça, c'est tout. En fait, il y a toute une histoire de la structure économique qui a complètement changé autour de l'agriculture, et le fait qu'il y a vraiment une politique de vider l'agriculture de ses travailleurs et travailleuses, de remplacer les chevaux par des tracteurs. Enfin, tout ça a été une politique visant à transférer la valeur vers les banques, vers le secteur des semences, vers le secteur des machines. Ça, c'est vraiment très très bien démontré dans un livre écrit par l'Atelier Paysan qui s'appelle Reprendre la terre aux machines. Et donc on peut pas vraiment, enfin voilà, c'est difficile. On peut s'inspirer de choses qui ont existé, mais on n'est plus dans le même environnement économique. On n'est plus dans le même monde. Moi, chez moi ici, les toits sont immenses et ils ont un angle très 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 aigu, alors qu'il neige plus. Donc ça veut dire que voilà, en 50 ans, le climat a complètement changé. On peut pas s'inspirer en fait de la façon qu'avaient les paysans de cultiver pendant avant-guerre, quoi.
Est-ce que vous abordez aussi des comparaisons entre un certain type d'agriculture et leur aspect économique?
J'en parle un peu comme étant une problématique. J'ai pas de grande résolution des choses à part de dire qu'en fait il faudrait que davantage de personnes participent à la production d'alimentation, mais là ça reste une proposition, voilà, à l'échelon plus individuel ou de collectifs, de communautés, de communes, pour que ça s'ancre vraiment dans la société, il faudrait que ce soit organisé politiquement, c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est interdit par exemple d'aller prêter main forte à un paysan de façon bénévole. C'est tout simplement illégal. Donc, ce serait des choses à changer en faisant attention à préserver les travailleurs et travailleuses agricoles qui en tirent des revenus. Mais il y a vraiment une organisation sociale qui... on peut bricoler, et moi j'incite à ça, à bricoler tant qu'on est là-dedans. Mais il y a des choses il y a des gros changements sociaux à demander et à préconiser. Le titre, c'est Jardiner dans les ruines. C'est ça le...
Et c'est quelle maison d'édition?
Alors c'est la maison Éco-Société, qui est une maison québécoise, et qui publie en fait des livres de jardinage et des livres d'écologie. Donc comme ma proposition est vraiment entre les deux, c'est-à-dire que à la fois il y a des conseils de jardinage et en même temps il y a une explication un petit peu plus globale ou des questionnements un peu plus globaux sur l'écologie. Cette maison cette maison Éco-Société a vraiment répondu présente et s'est montrée très soutenante pour ce projet. Et c'est une maison qui est bien connue par les personnes qui travaillent dans le maraîchage. Qui a édité des livres qui ont marqué les maraîchers et les maraîchères qui cherchent des différentes techniques, et notamment qui permet un dialogue entre le Québec et la France là-dessus, qui est assez intéressant.
Bertie, vous avez une représentation sur Internet aussi ?
Alors oui, sur la page sur Éco-Société, donc là, et après la page du livre, donc Jardiner dans les ruines. Et là, voilà, il y a notamment le petit calendrier avec les différentes dates de présentation.
Je vous remercie en tout cas de nous avoir donné un peu de temps sur RDWAP. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Okay, the bird.